plus. Le show de la rentrée, c'est un événement de la CADEL, un projet 100% étudiant et 100% gratuit.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Vous écoutez maintenant LSDJ7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Cheese 94.3 FM. I got an 80s ghetto blaster in my car. I wanna drive to a place so goddamn far. The week passed by so many 9 to 5. Sunny days and music by my side. Yeah, dès le matin j'ai de la musique dans ma tête, yo. Quand je monte le son, y'a rien qui peut m'atteindre, non. J'ai reçu un ghetto blaster pour ma fête, yo. Quand j'appuie sur play, je bouge avec la vibe. Ça fait jump jump comme les trampolines. Écoute l'album après rembobine. Dans les maisons, dans les 5 à 7. Yo, je peux faire tourner plein de sons, yo, j'ai plein de cassettes. Ok, je débarque avec le funk à la master flex. Dans les speakers sonnent, c'est le climat se place. Je fais un thumbs up, yo, ça passe le test. Je veux pas travailler non-stop, vu que mon ghetto blast. Got an 80s ghetto blaster in my car. I wanna drive to a place so goddamn far. The week passed by so many 9 to 5. Sunny days and music by my side. Chill, dans les 80s j'étais même pas né. Mais mes dance moves sont quand même bonnés. Large dans la porte, fais pas bien cogner. Parce que quand on blaste, yo c'est symphonique. Quand j'ai pas de charge, j'ai même pas de permis. J'ride amigo jusqu'à Port-au-Percy. Yo c'est comme wow, la folle folle boss. Pop pop pop, c'est mon bon remercie. J'ai ça dans mon bassin, j'fais du beat, j'ai pas 5, j'ai l'hormone, mon cassin, ça fait chier mon voisin. Non, pour rien au monde, j'veux changer nos places. Ils étaient non-stop, qu'est-ce à qu'est nos places.
Avec un peu de désert, mon esprit se détendra, se déliera. comme à contre-cœur de sa direction initiale. Aux chutes, au sommet, ou parfois simplement haut en bas. Bref, assis seul. Mais up-tempo se lie au sol.
Bonjour Marc-André Laure.
Bonjour Pierre Blais, comment allez-vous?
Ah, il n'y a rien de simple quand les matchs ne sont pas au Stade Canac.
Et à l'heure prévue.
Et à l'heure prévue, et le jour prévu, etc. etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là.
Alors recommençons. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bienvenue à la suite et espérons la fin de ce premier match de la finale de la division Est de la Ligue Frontière entre les Jackals du New Jersey et bien sûr vos capitales de Québec. Mon nom est Marc-André Laure, à mes côtés Pierre Blais, et on va vous décrire la moitié du match ou à peu près. C'est ce qui reste à jouer puisque lorsqu'on s'est quitté hier soir, c'était début de cinquième manche, oui, à New Jersey, lorsqu'un orage particulièrement violent s'est abattu sur le secteur de Augusta au New Jersey, là où se trouve le domicile des Miners de Sussex County, dans lequel les Jackals du New Jersey jouent.
Ouais, je comprends, là.
C'est une histoire un peu compliquée, mais suivez-nous, restez avec nous autres.
Ben, c'est rocambolesque, mais c'est intéressant, par
c'est
exemple.
C'est ça, effectivement. Mais là, parlons du match, puisque on a suspendu la rencontre en cours pour ensuite, bien sûr, la recommencer ce midi. Ce qu'on nous dit, là, c'est qu'au niveau de la température, ça devrait tenir sans problème. Donc, nous sommes...
On est sur le point de pouvoir rejoindre la diffusion
du
match.
Voilà, c'est ça, on est sur le point de pouvoir rejoindre la diffusion du match là, dans quelques instants. Donc, on peut déjà vous dire que ça recommence tranquillement. Au moment où on s'est laissé hier, c'était début de cinquième manche, un retrait,
oui,
et deux coureurs sur les sentiers, c'est-à-dire aux extrémités. Yasmuel Valentin s'est amené au bâton et a été retiré sur des prises. Ça vient d'arriver dans les dernières minutes. Juste le temps qu'on puisse avoir la diffusion, on pourra faire la suite des choses. Donc, on est maintenant à deux retraits et toujours des coureurs aux extrémités. Il y a un nouveau lanceur, bien sûr, du côté des Jackals. Il s'agit d'un dénommé Witten.
Donc, et il y en aura un nouveau du côté des Capitales également.
Oui, on s'attendait à Harley Gollert.
Et ce sera effectivement Harley Gollert. Ça a été confirmé dans les dernières minutes par Patrick Scalabrini par texto. Alors,
Cody Witten qui est maintenant sur la butte pour les Jackals.
Cody Witten, parfait, ouais, excellent. Ouais, ouais. Donc on pourra vous donner quelques statistiques tout à l'heure. Vous comprendrez qu'on en apprend à peu près en même temps que vous en grande partie là.
Oui, là on est vraiment au compte-goutte. Donc on peut vous dire là, d'ores et déjà que Valentin qui a repris le match a été retiré sur des prises et qu'on est maintenant à deux retraits toujours en début de cinquième manche et toujours des coureurs aux extrémités. Et les Capitales mènent 2-1,
oui,
hein, soit dit en passant.
Exact. Et dans le cas des Jackals, le lanceur partant LeBron, qui a donc terminé également sa journée
David
de travail,
LeBron,
là,
ouais,
il a connu plutôt un bon match hier soir. Donc, pour les Jackals, c'est pas nécessairement une très bonne nouvelle de d'avoir eu à faire la substitution. Ceci dit, pour les Capitales, non plus, c'est pas une bonne nouvelle de devoir faire une substitution parce qu'Abdiel Sadana connaissait un très bon départ.
Un très bon match. Et malheureusement, les Capitales n'ont pas réussi à profiter de cette situation-là. Remarque que c'était peut-être un peu prévisible de reprendre un match généralement
avec une situation
comme ça. Greg Bird a été retiré sur un ballon au champ gauche, donc il y a 3 retraits et on s'en va en fin de cinquième manche. Et c'est toujours 2-1 en faveur des Capitales. Donc, Harley Gollert va s'amener,
oui,
va effectuer ses lancers d'exercice et affrontera le bas de l'alignement chez les Jackals, c'est-à-dire Alex Toral, Kevin Rolon, et ensuite on revient en haut au premier frappeur qui est Philip Irvin pour cet après-midi.
Ça a été une réflexion quand même. Il a fallu se poser des questions chez les Capitales de Québec, ce qu'on faisait avec la suite des choses. Est-ce qu'on y va avec de la relève? Est-ce qu'on y va avec un partant qui est disponible? Puis au final, il y avait seulement 2 partants disponibles pour prendre la relève de Saldana. Il y a Gollert qui était là et Ryan Sandberg. Je pense qu'on est allé avec le choix facile et même évident là.
Gollert n'a pas perdu. Hein,
ben, exactement. Gollert a connu seulement de bons moments ou à peu près depuis qu'il est arrivé avec les Capitales de Québec. L'autre option, c'était la relève. La relève qui a été plutôt chancelante dernièrement. Donc du côté de Pat Scalabrini, le pari qu'on a fait visiblement, c'est de demander peut-être un 3, peut-être un 4, peut-être un peu plus à Harley Gollert, tout dépendant de comment va le match, parce que c'est très serré là, 2-1 entre les deux équipes et on est à l'habillage.
Oui, effectivement. Donc On s'en va en fin de cinquième manche au moment où l'on se parle. Les Capitals mènent toujours 2-1. On vous rappelle la situation, bien sûr. On reprend le match à l'instant et on va le terminer cet après-midi pour pouvoir présenter le deuxième match de cette série demain soir ici au Stade Canac et, si nécessaire, le troisième et dernier match dimanche 17h, toujours au Stade Canac. Ouais. Bien sûr. Donc là, pour l'instant, c'est
simplement dire, si vous nous écoutez en ce moment, c'est soit sur le Chiz 94.3 ou le Chiz.ca, parce que...
Il y a un petit enjeu technique là, au niveau de la diffusion vidéo sur Flow Sports. Là. On est à travailler très, très fort là-dessus avec notre ami Olivier qui va faire des pieds et des mains. Je n'ai point de doute.
Et vous aurez compris que pour nous, c'est assez crucial d'avoir accès à ces images-là pour vous décrire l'action. Alors, on s'arrête un court instant?
On s'arrête un court instant et on revient le plus rapidement possible pour vous décrire la fin de ce match. 2-1 Capitals, fin de cinquième manche en provenance du Skyline Stadium de Sussex County. Vous écoutez le deuxième match, le deuxième reportage sur le premier match de la série de Division S de la Ligue Frontière sur Chiz.ca et Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Cet été, Chiz 94.3 s'installe confortablement dans les gradins du Stade Canac, comme vous autres, fans des Capitales de Québec. Tous les matchs à domicile seront diffusés sur le web au chiz.ca et tous les matchs à domicile du jeudi au samedi inclusivement seront diffusés sur nos ondes. N'est-ce pas aussi merveilleux qu'un grand chelem en fin de 9e manche, ça? Je pense que oui! Chiz 94.3 FM, radiodiffuseur officiel des Capitales de Québec.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Alors, on est de retour en provenance du Skyline Stadium de Augusta, New Jersey. Le match est en cours. On est en fin de cinquième manche. C'est 2-1, Capitals. Et Harley Gollert a retiré son premier frappeur auquel il a fait face. C'est-à-dire Alex Toral. Retrait sur des prises, sur décision. Donc, un bon départ pour Harley Gollert. Donc, un retrait, personne sur les sentiers. On est en fin de cinquième. Tire trop bas de Gollert. C'est beaucoup plus agréable comme température du côté d'Augusta cet après-midi. La balle est frappée, un roulant en direction de l'aréco. Valentin saisit et son relais attend à TJ White pour le deuxième retrait. Bien fait de la part de Valentin, jeu de routine.
Oui, et d'aller chercher des retraits rapidement comme ça dans le match et dans le recommencement de match. Il va falloir qu'on s'habitue, mon
dans
vieux.
Dans le recommencement.
Le
oui.
recommencement de match, ça va être ça pour aujourd'hui. En tout cas, c'est important d'aller chercher des retraits rapidement, comme le font les Capitals en cette fin de cinquième.
Et évidemment, pour les deux équipes, c'est de l'adaptation, parce que là, t'as un peu l'impression de recommencer un match,
mais c'est un court
mais c'est pas
match.
Le cas.
Non, c'est ça.
Alors que le premier tir à Philip Irvin est une prise sur décision. Irvin est à sa première présence officielle au bâton. Il avait récolté 2 buts sur balle à ses 2 premières présences hier soir. Et là, s'élance et rate. On est à 0-2 maintenant.
Je peux vous mentionner que le choix de caméra ne nous revient pas, en passant, si vous êtes sur Flow Sports actuellement.
Sur élan, troisième prise. Et c'est une manche parfaite pour Harley Gollert. à son arrivée dans le match et les Capitales. Bien fait, on envoie un message qu'on est prêt à jouer du baseball.
Absolument.
Du côté des Capitales, qui mènent toujours 2-1 après 5 manches complètes de jeu.
Alors, on est effectivement à un moment important dans le match là, parce que 5 manches de complétées, on rentre dans les manches où on risque de voir la relève éventuellement venir lancer. Ceci dit, ça c'est en temps normal. Aujourd'hui, c'est différent. On est revenu avec des lanceurs qui sont plutôt frais et dispo en quelque sorte.
Totalement. Pour un lanceur qui arrive là, c'est comme le début d'un match. Pour la majeure partie des joueurs également. Sauf que faut se rappeler, faut que les je pense que c'est une job des coachs derrière ça de leur rappeler à quel point on est dans un match en cours. Particulièrement pour New Jersey, qui doit faire du baseball de rattrapage sur 4 manches. Tandis oui. que chez oui. les Capitales, ben, on veut peut-être continuer à imposer le rythme et à profiter de l'avance qu'on a actuellement et peut-être idéalement l'accentuer.
Exact, exact. On affronte un lanceur qu'on a vu quand même dans la Ligue Frontière depuis 2 ans déjà. Cody Whitten qui lance avec le New Jersey. 2 victoires, oui. 2 défaites cette saison. Moyenne de points mérités à 3.74. Il a participé à 36 parties jusqu'à maintenant, uniquement comme releveur. 43 manches et un tiers. Il a donné 34 coups sûrs auxquels on ajoute 24 buts sur balle. Le whip est relativement élevé à 1.4 ou à 1.34 ou à peu près. Maintenant, pour ce qui est de sa moyenne de points mérités, à 3.74, c'est plutôt bon dans une ligue comme la Frontière. Et pour les retraits au bâton, 51 en 43 manches de travail.
Et c'est un gaucher,
tout comme Gawler d'ailleurs.
Comme Gawler, donc on tombe dans un duel de gauchers. Tout ça se modifie là avec un match disputé sur 2 jours. Donc Justin Gideon va s'amener en ce début de 6e manche. Premier frappeur de la manche pour les Capitales. Le premier tir de Whitten est même pas contrôlé là, par le receveur. Loin, loin, loin à l'extérieur. Je vous rappelle que Gideon a 22 circuits cette saison.
Oui.
71 points produits. A frappé pour tout près de 280. Voilà le tir de Whitten. Sur élan, voilà une prise.
Ah, côté synchronisme, là, c'est tout sauf facile, et ça pour tout le monde. Puis dans certaines situations, ce seront les frappeurs qui auront l'air un peu décontenancés. Certains moments, ce seront les lanceurs. Faut s'attendre à ça.
Le tir suivant, la balle est frappée hors ligne derrière le marbre par Gideon. On est à 1 et 2.
Il y a un match de jour. Ça, on en a quand même quelques-uns au cours d'une saison. Ici à Québec, un peu moins, là, parce qu'à domicile, on n'en joue pas, mais quand même, on a vu quelques fois cette saison des matchs à 10h30 ou 11h le matin pour dans certains endroits aux États-Unis.
Troisième prise sur décision à Justin Gideon. Un tir qui a effleuré le coin extérieur de la part de Cody Whitten. Et on est à un retrait.
Et là-dessus, chez les Capitales, on doit plancher sur un objectif et un seul, c'est d'ajouter un point. Là, il y a un retrait, c'est clair, en début de 6e manche. Ceci dit, avec David Gould qui s'amène au bâton, il faut vraiment viser la présence sur les sentiers et de façon massive là, chez les Capitales.
Le premier tir de Whitten, prise sur décision. Whitten lance des prises
oui.
là, à son arrivée dans le match, il n'y a pas de doute. Là. Il a déjà 2 retraits au bâton. Sur Valentin et sur Gideon. À l'extérieur, voilà une balle.
Si vous entendez des bruits de bâtons d'aluminium dans l'arrière-champ, là, c'est qu'on est au stade, nous, et il y a une pratique du sport-études baseball actuellement sur le terrain.
Le tir suivant de Whitten à l'extérieur pour une 2e balle.
Et quand on vous dit que les Capitales occupent quoi? Une 10% du temps d'occupation, justement, ici au Stade Canac, là, en termes d'utilisation du terrain, ben là, vous en avez une preuve, là. Ils sont à l'étranger, mais ça joue quand même au stade.
Tir suivant, voilà une autre balle. Trop haut, cette fois, David Gload. Et ce sera pas facile pour les deux formations. Là, dès qu'on termine, on saute dans l'autobus et...
Oui, deuxième match demain. Hein?
Aller à Québec, on joue à 19h ici à Québec demain. La balle qui est soulevée par David Gload. Hors ligne, il n'y avait pas d'espace là, pour le voltigeur. Non, pas le voltigeur, mais bien le joueur de troisième coussin sur la gauche. Donc, on est à compte complet maintenant sur David Claude. Witten est prêt. Voilà son tir. Trop haut pour une quatrième balle. Donc, Claude s'en va sur les sentiers avec un retrait. Et ça mènera donc Jeremy Profar.
Il a pas dit un gros point, lui, hier soir, Profar.
Oui, absolument. Il est 1-2 là, au moment où on se parle dans le match. C'est lui qui a produit le deuxième point. Donc, pour l'instant, ce qui est le point gagnant là, du côté des Capitales, un simple qui avait fait marquer Justin Gideon. On va surveiller Claude, bien sûr, au premier. Voilà le tir à Profar, prise sur décision. Bonne balle à effet de la part de Witten.
Ça va être difficile pour Claude d'en prendre davantage avec le lanceur gaucher qui semble avoir quand même un certain bon geste vers le marbre qui peut être un peu trompeur.
Witten, le tir suivant. Trop bas pour une balle, une et une.
Remarque, que vois-tu sur le dernier élan du lanceur là-dessus, là, il se compromet relativement rapidement. Donc, faudra voir à quel point il est capable de varier ses motions parce que David Claude pourrait s'en servir pour déguerpir rapidement.
Le tir de Witten. Trop haut et à l'extérieur. Ça a échappé au receveur Estrada, mais Claude n'a pas bougé. Là, la balle demeurait à proximité quand même là, sur le côté gauche.
Je pense que David Claude, s'il veut décamper, en tout cas, il a été en mesure de lire ce que le lanceur adverse lui envoyait jusqu'à maintenant au premier coussin.
Witten est prêt. Claude est en course. La balle est frappée hors ligne du côté droit.
J'ai pas vraiment de surprise de voir David Claude déguerpir sur celle-là parce que vraiment, le lanceur, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il soulève la jambe et il vient la croiser avec son autre jambe dès le départ. En d'autres mots, il est compromis. Il n'a pas le choix d'aller vers l'avant et c'est pour ça qu'on peut voir un David Claude qui passe en langage de baseball. On dit first move, là, et c'est ce qu'il a fait admirablement.
Witten est prêt. Voilà son tir. On va demander si Profar s'est compromis. Évidemment que ce n'est pas le cas là, dans ce cas-ci. Là, c'était assez évident.
En tout cas, nous, ça nous semblait assez évident. Merci. Ah, il y a une petite tension, Marc-André. Là. 2-1 pour Québec. C'est loin d'être gagné, mais la position est bonne pour Québec.
Witten est prêt. Voilà le tir à Profar. La balle est frappée en direction du deuxième. Saisie facilement au deuxième pour un. Au premier, double jeu.
Ah.
Et c'est ce qui va mettre un terme à la manche.
C'est dommage parce que Claude, sur le dernier tir, n'a pas pu profiter de ce que j'expliquais il y a un instant parce que le lanceur a changé sa motion. Il a ralenti sa jambe vers le haut et ça a probablement empêché Claude de décamper.
On s'en va en fin de sixième. C'est 2-1 Québec en provenance du Skyline Stadium de Augusta, au New Jersey, vous écoutez le premier match de la série de division Est de la Ligue Frontière entre les Jackals de New Jersey et les Capitales de Québec sur Chiz et sur Flow Sports.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Cet été, Chiz 94.3 s'installe confortablement dans les gradins du Stade Canac, comme vous autres, fans des Capitales de Québec. Tous les matchs à domicile seront diffusés sur le web au chiz.ca et tous les matchs à domicile du jeudi au samedi inclusivement seront diffusés sur nos ondes. N'est-ce pas aussi merveilleux qu'un grand chelem en fin de 9e manche, ça? Je pense que oui! Chiz 94.3 FM, radiodiffuseur officiel des Capitales de Québec.
On est de retour, c'est les séries des Capitales de Québec. Oui, monsieur, oui, madame, on vous présente ça en pleine journée. Pourquoi? Parce qu'hier soir, il n'y a plus en plein milieu de match et on doit en jouer l'autre moitié aujourd'hui.
Et il n'y a plus pas juste un peu.
Hé, tabarouette. Il y a un certain moment donné, Marc-André, alors qu'Henry Gollard prend ses tirs d'échauffement et ça se termine, les Capitales sont sur le point de pouvoir reprendre le jeu. À un moment donné, Marc-André, effectivement, là, on avait des images de la toile qui accueillait la pluie. Oui. Puis c'était l'équivalent de voir une rivière qui recevait de la pluie là avec des rebonds. Là.
Présentement, Augustin, il fait soleil, d'accord?
Oui.
Mais on voit quand même, pour ceux qui nous regardent sur Flow Sport, là, regardez le... Je vais appeler ça le pourtour du terrain là en terre battue. Là. On voit encore des démarcations de... de terre encore peut-être un peu vaseuse.
Ce qui était tout à fait inondé hier soir, c'est qui nous a donné l'indice, effectivement, qu'on
n'allait
pas...
Il n'y avait aucune chance qu'on puisse reprendre ce match-là hier soir, là, avec l'orage qu'on a subi.
James Nelson s'amène au bâton. Le tir est une fausse balle. C'est une et une à Nelson. Depuis le début du match, hier soir, il a frappé un triple, James Nelson, qui a produit un point d'ailleurs. Philip Irvin, qui avait récolté le but sur balle tout juste avant.
Ce qui est intéressant pour les Capitales également.
Fausse balle derrière le marbre, une et deux maintenant.
C'est que, avec le match divisé en deux, évidemment, bon, là, on a moins de sentiments d'urgence puisqu'on mène, pour l'instant. Mais surtout, c'est que Saldana a bien fait et Gallert, jusqu'à présent, fait bien.
Oui.
Donc, on pourrait potentiellement terminer le match avec Gallert.
Sans aller avec la relève, voilà une balle.
Sans aller avec la relève, journée de repos supplémentaire avant de faire beaucoup de trajets. Et là, t'as ta relève qui est tout à fait disposée à être utilisée demain soir, par exemple.
Le tir sur élan, une troisième prise. Nelson qui fend l'air, alors un autre retrait sur des prises pour Arley Gallert qui...
Un troisième déjà.
Trois en quatre frappeurs jusqu'à maintenant.
Ah non, Gallert, pour vrai, quelle acquisition du côté des Capitales. Dès son arrivée, il a été important, efficace.
Frappeur suivant qui se présente au bâton, c'est Kian Barnum, le premier tir qui rate au coin extérieur pour une première balle.
Il faut dire là, qu'un gars comme Gallert fait ses débuts dans le baseball professionnel.
Oui.
Lui, il sortait là, de Oral Roberts dans la NCAA là, aux États-Unis.
Fausse balle du côté droit cette fois, 0 et 2.
T'es frappé avec une certaine force là, de la part de Barnum.
Oui.
Qui est 0 en 2 ce soir. Ben, cet après-midi, hier, aujourd'hui.
Ça peut devenir mêlant. Le tir. Fausse balle derrière le marbre.
Donc, encore une fois, Gallert qui se place en bonne position dans le compte. Fort important là, du côté des Capitales.
Barnum qui est le frappeur désigné chez les Jackals, troisième frappeur du rôle offensif. Le tir. Fausse balle encore une fois derrière le marbre.
Parce que j'irais même jusqu'à dire que dans le cas des Capitales, sans être passif dans le match, tu n'as pas besoin de gagner. Tu gagnes déjà. Tu comprends? Les Jackals, eux, doivent absolument gagner ce mini-match de cinq manches.
Le tir. Trop loin au coin extérieur pour une quatrième balle cette fois. Alors, but sur balle après le retrait au bâton.
Donc, ça se passe beaucoup sur le monticule jusqu'à présent.
Ah oui, absolument. C'est maintenant au tour d'Alfredo Marte de se présenter à la plaque. Marte a été retiré deux fois en deuxième et en quatrième manche sur des roulants. Et là, il se présente avec un seul retrait coureur au premier coussin. Premier tir de Gallert, fausse balle du côté gauche. Effectivement, c'est beaucoup plus intéressant comme température que ce qu'on a connu hier soir. Ceci dit, les relents, ils sont clairs. Là, la qualité du sol, la qualité du sable actuellement, c'est pas parfait.
Oui, il y a deux couleurs, hein?
Je dirais plusieurs teintes de deux couleurs, effectivement. La pause et le tir de Gallert.
50 nuances de brun.
C'est une balle trop bas. C'est une et une. Chez les Capitales, demain, c'est Steven Fuentes qui sera au monticule.
Oui. Absolument.
Ici, on doit aller à un match numéro 3. Ramirez sera lanceur partant. Au ballon qui est soulevé par Alfredo Marte, c'est TJ White qui demande la balle et qui la saisit pour le deuxième retrait.
Encore une fois, les Jackals ne font rien de bon avec la balle de Harley Gallert. C'est la deuxième fois seulement qu'ils font contact et qu'ils mettent la balle en jeu. Un ballon à l'avant-champ et un roulant de routine à la récours. C'est tout ce qu'on a eu du côté des Jackals jusqu'à présent. Donc Gallert fait le travail. J'ai l'impression que dans sa tête, Patrick Scalabrini, un petit sourire en coin.
Autour de Tequan Forbes maintenant de s'amener au bâton. Premier tir qui rate pour une première balle. Forbes est 0 en 2. Dans le match, avec un retrait sur des prises. C'est survenu en quatrième manche. Je rappelle qu'il y a un coureur au premier coussin. Deux retraits. Le tir. Un ballon qui est soulevé. Un faible ballon. Longue course pour les voltigeurs. Et finalement, c'est Seidel dans la gauche qui saisit pour le troisième retrait.
Superbe course de la part de Tommy Seidel. Ça prenait un départ parfait. Et pendant tout ce temps-là, Valentin n'était pas loin, évidemment. Mais Seidel a suivi cette balle-là tout le long et saisi sans trop de mal au final puisqu'il a eu un excellent départ pour terminer la demi-manche.
On s'arrête un court instant. De l'autre côté de la pause, c'est le début de la 7e manche. Les rondes de championnat, comme on dirait en boxe. C'est 2-1 pour les Capitales de Québec sur les Jackals du New Jersey. La suite dans un instant.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie, j'arrive!
Début de 7e manche. C'est les séries des Capitales de Québec que vous écoutez sur le Chiz 94.3, le Chiz.ca, et que vous regardez probablement sur Flow Sports également. Pour les Capitales, en ce début de 7e manche, White, Lacroix et Seidel, les frappeurs 7, 8 et 9 qui s'amènent au bâton. C'est très serré, 2-1 pour les Capitales de Québec. Et là, l'objectif, et encore une fois, ce sera le même objectif à chaque manche, c'est d'aller en gratter un. Faut ajouter un point chez les Capitales de Québec.
Oui, si on est capable de le fabriquer, pourquoi pas? Avec bon, peut-être pas avec TJ là. TJ, on va chercher le coup sûr, mais avec Lacroix, on peut demander l'amorti. Avec Seidel, on peut avoir une certaine vitesse. Après ça, on retourne au haut de l'alignement avec les Castro et compagnie. Donc il y a des possibilités. Là.
Premier tir à TJ White qui frappe un ballon qui se retrouve au-dessus du joueur d'arrêt-court qui demande la balle et la saisit pour le premier retrait.
Définitivement, là, la léthargie qui se poursuit pour TJ White. Évidemment, le gars joue blessé, sans vouloir être trop dur avec lui, mais ça a été une deuxième moitié de saison assez difficile pour TJ White.
Absolument.
Au bâton. En défensive, pas un mot à dire. À l'attaque, plus compliqué.
C'est maintenant au tour de Jonathan Lacroix de venir frapper. Fausse balle derrière le marbre sur le premier tir qui lui est envoyé. Lacroix dans le match a été retiré sur un roulant au premier coussin, un roulant pesant au premier coussin en troisième manche. Et il a frappé la balle en lieu sûr en cinquième. C'est lui qui a amorcé cette fameuse cinquième manche qui est tombée à plat, malheureusement, un peu plus tard. Le deuxième tir qui est tombé
à l'eau.
Tombé à l'eau. Bon point. C'est une et une à Lacroix maintenant.
Joe Lacroix, en 2022, avait connu des saisons, des séries exceptionnelles. Exceptionnel. Déjà en défensive, mais surtout des coups sûrs opportuns. Il avait été magistral dans une attaque de Québec qui était tombée un peu plus à plat en séries éliminatoires. On avait fait ce qui était nécessaire pour gagner, mais c'était pas le côté explosif.
Sur élan, voilà une deuxième prise. C'est 2-2 maintenant, Lacroix.
Rappelez-vous un Jeffrey Parra qui avait cogné 32 circuits, a été complètement amorphe en éliminatoire. TJ, ça avait été compliqué également, mais Joe Lacroix avait, en bon français, avait step up, là.
Et voilà une troisième prise, malheureusement, Lacroix qui fend l'air, alors.
Ouais, c'est pas un très bon élan, là, de la part de Joe non plus là-dessus, là.
Déjà deux retraits en début de septième manche, et c'est au tour de Tommy Seidel de s'amener au bâton. Et là, vous vous dites, ah non, pas le neuvième frappeur, ça donne rien. Hier, il a frappé la longue balle, Tommy Seidel. C'est absolument lui qui a produit le premier point des siens en troisième manche. Et ce, après deux retraits, d'ailleurs.
Son premier coup sûr dans le baseball professionnel en saison a été un circuit. Son premier coup sûr en séries éliminatoires dans le baseball professionnel a été un circuit. J'aime ce genre de tendance. Je mettrais toute ma confiance en Tommy Seidel à sa première présence au bâton en finale.
Ou en série mondiale. Moi, je l'appellerais pour commencer la série mondiale. Premier tir qui a raté la cible. Tir suivant. Sur élan, voilà une première prise. C'est une et une. Seidel, je vous le disais, a frappé la longue balle en troisième manche. Ballon au champ centre ensuite en cinquième. Une et une. Le tir. Voilà une deuxième balle qui est beaucoup trop bas au coin extérieur. 2 et 1 maintenant. Si on doit aller plus loin, c'est Ruben Castro qui viendra frapper. Et sinon, ben, c'est lui qui commencera la huitième au bâton pour les hommes de Pat Scalabrini. Fausse balle derrière le marbre pour Seidel, 2-2 maintenant. Alors, jusqu'à maintenant, pas trop d'enjeux chez les Jackals, qui d'ailleurs ont un nouveau lanceur au monticule. Lanceur Cole, qui est maintenant sur la butte. Le tir. Fausse balle derrière le marbre encore une fois. Seidel est toujours en vie. Il n'y a pas énormément de gens dans les estrades du côté de Sussex pour assister à ce match. C'est un match de jour. C'est pas le domicile des Jackals. Alors, c'est pas très surprenant. Le tir. La balle qui est mollement frappée en direction du joueur de deuxième but. Court relais au premier pour le troisième retrait. Les Capitales sont retirées dans l'ordre en ce début de septième manche. Nous, on s'arrête un court instant. De l'autre côté, les Jackals reviennent au bâton. C'est 2-1 pour Québec. On s'en va en fin de septième manche. C'est le baseball de la Ligue Frontière que vous écoutez sur Chiz 94.3 et que vous regardez sur Flow Sports.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés.
Et tu fous? Je suis bien trop stone. Hey, Bière!
Ah non, une fois que je prenne pof, je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis deux, trois pof.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Les 5 et 6 septembre prochains, les journées d'accueil de la rentrée U Laval auront lieu de 9h à 17h. Toute la communauté universitaire est attendue sur le Grand Axe. Rencontrez les responsables des services à la communauté étudiante, des facultés et des associations étudiantes pour commencer la session du bon pied. Animation, prestations musicales, concours et nombreuses surprises. L'occasion idéale pour profiter de votre campus. Voyez tous les détails au ulaval.ca/rentrée.
C'est la fin de la septième manche qui commencera dans un court instant. Harley Gawler qui est toujours au monticule pour les Capitales et avec raison. Il l'a tellement bien fait depuis qu'il est entré dans le match.
Impeccable.
Alors, on va suivre avec attention ce qui se passe sur le terrain. Ce que vous avez actuellement sur Flow Sports, c'est une publicité d'automobile. Puis si vous nous écoutez sur le chiz.ca, vous avez le bonheur d'avoir nos deux jolies voix. Marc-André Laure, Pierre Blais en votre compagnie.
Bonsoir.
On est là avec vous depuis le début de la saison régulière. Il n'était pas question qu'on vous laisse tomber pendant les séries éliminatoires.
Oh non.
Les Capitales sont à New Jersey, pas de problème. On vous diffuse ça en français. Et dès demain, il y a un match au Stade Canac. Je pense qu'il reste pas beaucoup de billets, s'il en reste.
Ah, c'est minime ce qui reste, s'il en
reste. En admission générale, principalement. Ouais, alors, faites vos vérifications. C'est peut-être encore possible.
On annonce
pas.
Très beau également comme journée demain.
Ça a changé, d'ailleurs. Ouais. Alors, bonne nouvelle, effectivement, demain, il y aura du bon baseball au Stade Canac. Josh Rewalt est le premier à se présenter au bâton pour les Jackals du New Jersey en fin de septième manche, toujours face à Harley Gollard. Rewalt est 1-2, la frappe la balle en direction de Glaude au deuxième, qu'il retire de 4-3.
Encore une fois, Gollard donne rien à l'adversaire, un autre roulant de routine pour David Glaude, qui a eu à se déplacer légèrement sur sa gauche, mais rien de plus. Donc, très, très, très simple. Ce qui m'amène une question pour toi, Pierre Blais.
Oui, bien sûr.
Est-ce que Harley Gollard sera là jusqu'à la 9e manche, inclusivement?
Tant que ça ira bien, il a lancé la 5e, la 6e, là, il a la 7e. J'avoue que la 9e, c'est peut-être un peu trop.
Admettons que ça demeure 2-1, là.
À 2-1, il va falloir mettre Moscatiello dans l'équation, du moins. Ouais. Ça me semble assez évident qu'il faut y penser. Maintenant, ta question, qu'est-ce que je ferais? Ben, je vais décrire le frappeur suivant à la place. Rosemar Estrada qui est au bâton. Fausse balle.
C'est ça. Achète-toi du temps.
Fausse balle du côté gauche. C'est 1-1 à Estrada.
Mais la question se pose pour vrai. Parce
oui, certainement. C'est une vraie de vraie.
Il y a beaucoup de trajets à faire. Moscatiello refuse jamais un mandat, là, ça, on le sait. Mais, est-ce que tu veux le garder dans l'éventualité d'un match serré, demain soir pour clore la série, par exemple?
Le match que tu dois gagner, c'est celui d'aujourd'hui.
C'est sûr.
Celui de demain, on verra. Ceci dit, ça veut pas dire que Pat Scalabrini fera pas le calcul qu'Harley Gollert est le meilleur sa meilleure chance de l'emporter aujourd'hui. Gollert donne rien.
Non, c'est ça. Et il est gaucher, donc j'ai l'impression que s'il sera en neuvième, ça va peut-être dépendre
de qui.
Tu sais, s'il affronte deux gauchers sur trois, d'après moi, il va garder Gollert.
Tire de Gollert trop haut pour une deuxième balle. Oh non, on vient d'appeler une prise sur ce tir-là et le frappeur des Jackals, Estrada, n'en revient pas. Surtout qu'Estrada est le receveur des Jackals du New Jersey. Puis écoute, on va le prendre. Retrait sur décision. Deuxième de la manche. Mais je peux vous dire que Rosber Estrada a certainement un argument.
Ça semblait effectivement un peu.
Et hier, l'officiel du marbre en a échappé quelques-unes des comme ça. Pas mal tout à l'avantage des capitales. Faut quand même pas se mettre la tête dans le sable. Il n'a pas un très grand match, l'officiel du marbre, ce soir.
Quatrième victime au bâton là, pour Gollert pendant ce temps-là.
Exact. Alex Torrell qui s'amène au bâton maintenant. Une et une à Torrell déjà. Lui, il s'est présenté au bâton tout à l'heure. Il a été retiré sur des prises. Pourrait même compléter le sombrero parce qu'il a été retiré sur des prises également hier, en troisième manche.
Ça marche encore, ça, Pierre, un sombrero sur deux jours?
Certainement, c'est encore plus satisfaisant. Deux et une à Alex Torrell. Le tir. La balle est frappée en direction de David Glaude, qui est visiblement le joueur défensif le plus occupé chez les Capitales aujourd'hui. Et c'est bien tant mieux, il est pas mauvais.
Et un autre roulant de routine, encore une fois au deuxième coussin. Gollert est impeccable. Il a affronté 10 frappeurs jusqu'à présent pour faire 3 manches complètes. Il a accordé un seul but sur balle, c'est tout. C'est juste ça, il n'a pas accordé de coup sur rien. Il est parfait.
C'est la 8e manche qui s'en vient dans un instant. Les Capitales de Québec sont en avance 2-1 sur les Jackals de New Jersey. C'est très intéressant. La bonne nouvelle, c'est que nous, on revient de l'autre côté de la pause avec la suite.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter.
Allô, chérie, je m'en viens.
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Bonsoir, chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non. Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben!
Début de 8e manche. Ben nous, on est au Stade Canac, et par habitude, je vais dire au Stade Canac, mais eux sont à Sussex.
En provenance du Skyline Stadium d'Augusta, New Jersey, Pierre.
C'est une formulation impeccable, parce que c'est un peu trompeur, mais pas assez pour dire que c'est pas vrai. Les Capitales sont là-bas, nous on est ici, on vous accompagne dans les séries éliminatoires de vos Capitales, de nos Capitales, que ce soit sur le Chiz.ca, le Chiz94.3, ou encore sur Flow Sports, et c'est avec un grand bonheur qu'on le fait. Ruben Castro est le premier des Capitales à venir frapper en ce début de 8e manche. Castro a frappé la balle en lieu sûr 2 fois plutôt qu'une jusqu'à maintenant. Premier tir à Castro qui est une balle appelée par l'officiel. 2-3 donc pour Castro avec un retrait au bâton également. Le tir sur élan, voilà une première prise, c'est une et une.
Un élan dans lequel les pieds bougeaient énormément pour Ruben. Là. Il est, c'est ce qui est particulier de son élan, c'est que les pieds sont absolument pas stables.
Ouais. Et ça, c'est rare pour un frappeur efficace comme lui. La balle est frappée en direction du deuxième coussin. Un jeu de routine, même si on a jonglé avec la balle là-dessus, mais... Ouais.
Là-dessus, Ruben a un peu abandonné, là, très honnêtement. Là, il s'était défoncé pour courir ce roulant, il aurait mis de la pression sur le joueur de deuxième but, aurait pu potentiellement être sauf au premier, parce que Roland a jonglé avec la balle.
Exact. Et entre toi et moi, il aurait certainement été retiré, sauf que une fois sur 100, il va être sauf, parce qu'il va avoir mis la fameuse pression dont tu parles. Et ça, cette fois-là, là... C'est pas le 3 mai qu'il faut que ça arrive. C'est en séries éliminatoires.
Pas mal le 8 septembre.
Ouais, exactement. Premier tir à Valentin maintenant qui est une prise en plein cœur du marbre. Valentin qui regarde passer une deuxième prise maintenant rapidement, c'est 0 et 2.
Dayson Cole lance bien là, honnêtement.
Valentin qui a récolté un but sur balle dans le match. Frappe la balle en direction du troisième coussin. C'est un jeu pas facile, ça. Et on va...
Il est sauf.
Ah, il est sauf, effectivement. Valentin qui a pris les jambes à son cou et qui s'est arrangé pour être sauf. Alors ça, là, ça, c'est un... C'est la marque d'un joueur de séries éliminatoires. Puis je dis pas que Castro n'en est pas un, là. C'est simplement que c'est le genre de jeu où on a la preuve où il faut mettre la pédale au fond tout le long.
Ne jamais abandonner. C'est une balle qui était frappée très faiblement par Valentin au troisième coussin. Donc le relais allait être long. Et en plus, le joueur de troisième coussin, Nelson, devait foncer sur la balle. Son relais à contre-courant a fait un bond dans le gazon auparavant. Donc le gazon de Skylands, il est naturel. Contrairement au synthétique du Stade Canada. Donc la balle a tendance à mourir plutôt que d'accélérer sur le rebond. Ça a donné une fraction de seconde de plus à Valentin et il est sauf au premier avec un coup sûr à l'avant-champ.
Le premier tir à Greg Bird, fausse balle derrière le marbre. Bon écart de Castro, pas de Castro, mais de Valentin au premier. Le tir à Bird qui soulève un ballon au champ centre. Faible petit déplacement là, pour le voltigeur qui saisit la balle pour le deuxième retrait.
Dommage pour Bird, on attend encore. Là. On l'a vu frapper quelques bonnes balles d'aplomb au Stade Canac. Il a frappé un roulant à la clôture là, la semaine dernière, là, à 110 000 à l'heure. Mais reste que c'est Greg Bird, donc on aimerait bien le voir en frapper une dans les airs, parce qu'on le sait que s'il y en a un qui peut la frapper à 450 pieds du marbre, c'est bien lui.
Effectivement, donc, on aimerait beaucoup ça, assister.
Oui, absolument.
Justin Gideon maintenant avec deux retraits s'amène au bâton. Je vous rappelle qu'il y a un coureur au premier. On est en début de huitième manche à New Jersey. Fausse balle derrière le marbre.
Les Capitales qui tiennent bon pour l'instant font ce qu'il faut pour gagner. Donc, ils ne sont pas passifs, mais forcé d'admettre que sur un mini-match de cinq manches ou de quatre manches et demie, la défensive est plus importante que l'attaque lorsque tu commences ce match-là, ce mini-match-là, et que tu mènes.
Oui.
Et pendant qu'on... Gallert est impeccable.
Pendant qu'on regarde, là, Ruben Estrada, pardon, le receveur des Jackals qui a été atteint par le ricochet, ça nous donne le temps, effectivement, de se pencher là-dessus. Les Capitales qui ont recommencé le match, en même temps que les Jackals, bien sûr, là, en cinquième manche. Et c'était déjà 2-1. Donc oui, protéger en quelque sorte une avance. Et d'un autre côté, faut pas faire comme nos références sont souvent au hockey, là, mais protéger l'avance, ça veut pas dire de ne pas inscrire de points de ton côté non plus.
Non, parce même que tu peux pas jouer la trappe au baseball.
Exact. Et ça, c'est au bâton qu'on doit être en mesure de faire la différence. Des bonnes présences au bâton, faut pas changer les approches. On a connu relativement du succès hier soir malgré tout. Je vous dis pas que ça a été énorme comme succès, c'est 2-1, c'est très serré comme match, puis c'est à bas pointage.
C'était suffisant
et c'était bien placé avec des coups opportuns, notamment celui de Tommy Seidel. Ça peut survenir à n'importe quel moment.
Oui, absolument.
Alors, une et une à Justin Gideon. Tout le monde a repris sa place. Le receveur Estrada qui semble être en mesure de poursuivre le match. La cible est basse au coin extérieur. Le tir. Fausse balle encore une fois derrière le marbre. Gideon qui vend chèrement sa peau.
Il est devenu très bon dans cet aspect-là de ses présences au bâton, là, de se défendre, d'être combatif, de faire des contacts, de forcer l'adversaire et le lanceur à faire plus de lancers.
Tire qui est au point extérieur, une troisième prise sur décision, la rapide qui a fait figer Justin Gideon là-dessus. Alors, deuxième retrait sur des prises pour Gideon dans le match d'aujourd'hui et dans la partie de match d'aujourd'hui. Mais on commencera pas à vous scinder ça par journée, par match, par manche. On va plutôt faire une pause, un court instant. Parce que dans un instant, justement, c'est la fin de la huitième manche dans un match ultra serré, mené par nos Capitales de Québec 2-1 face aux Jackals du New Jersey.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca.
venez vite. L'allié, votre allié pour toujours.
C'est la fin de la huitième manche en direct de New Jersey entre les Jackals et les Capitals. Je dis en direct de New Jersey, c'est au Skyland Park de Sussex County, dans le New Jersey, dans la ville d'Augusta. Est-ce que vous êtes assez perdu? Parfait. Nous aussi. Aïe, 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 toute cette histoire de comté, puis ça nous amène quand même à
parce
vous
parce que Sussex County, ça n'existe pas, là. Tu sais, c'est comme dire... C'est un arrondissement ou c'est un comté.
Mais ça n'existe pas, mais leur équipe de baseball s'appelle les Miners de Sussex County.
Oui, pour représenter la région.
S'il y a moyen d'être... Ouais, ça serait comme
les Angels de Los Angeles.
À Anaheim.
Mais qui jouent à Anaheim.
Oh là là bon. Là là.
Tu comprends un peu, là?
Austin Morodis, maintenant, est au monticule pour les Capitals de Québec en cette fin de huitième manche. Donc, visiblement, on a dit à Harley Gollard, bravo, tu nous as donné trois excellentes manches et avec raison.
T'annonce que je suis un peu surpris de la décision.
Oui, moi aussi. Mais le premier tir qu'envoie Austin Morodis aux Jackals, c'est une prise, la rapide au coin intérieur. Kevin Rowland qui est au bâton. Tir suivant qui est un boulet de canon, mais qui rate la cible bas au coin extérieur pour une et une.
Et c'est la spécialité de Austin Morodis, les
boulets de canon. Certainement.
Trois victoires, deux défaites cette saison. Moyenne de points mérités à 4,66 pour Austin Morodis. Il a trois victoires protégées, 29 manches de travail.
Voilà, une prise au coin extérieur, c'est une et deux.
Et il a 24 retraits sur des prises.
Et Morodis, en santé et qui lance des prises, on veut ça dans notre équipe, certainement.
Le whip à 1.24 pour Morodis, c'est très bien. Oui, c'est très bien.
Voilà, une deuxième balle. On vérifie si Rollins s'était lancé, mais non. Alors, ce sera 2-2 maintenant. Au neuvième frappeur du rôle offensif chez les Jackals.
Je réfléchis sur la décision de Patrick Scalabrini, hein, parce que je vous disais que j'étais un peu surpris. Donc, Morodis en huitième. Faut s'attendre à voir Moscatiello en neuvième.
Oui, oui, oui. Le tir. La balle est frappée mollement en direction de vous savez qui. David Glaude saisit et relais au premier pour le retrait.
Donc, est-ce qu'on compte en retrait maintenant, mon cher Pierre? On est à 5 retraits de la victoire?
On est à 5 retraits de revenir ici à Québec avec l'avance dans
c'est
la série.
Ben imagine, oui. Imagine l'ambiance demain soir au Stade Canac, Pierre.
Ça va être complètement fou. C'est un peu plus permissif également de revenir en menant la série par 1-0.
Oui.
T'as quand même le luxe, entre guillemets, puis tu veux pas te rendre là, mais t'as quand même le luxe, entre guillemets, de perdre le match suivant et de toujours être en vie. Et ça, ben les Capitals ne l'auront pas volé s'ils l'emportent aujourd'hui. Là, c'est exactement ce que ça permet un match comme celui-là.
Absolument. Donc, écoute, Morodis en huitième, j'aime ça, Moscatiello. Et ça te fait conserver, dans le fond, une possibilité d'utiliser Gollert une autre fois dans cette série, peut-être dimanche.
Une balle, aucune prise à Philip Irvin.
Ce qu'on sait pas maintenant, c'est est-ce que Gollert serait à l'aise à lancer avec une seule journée de repos, par exemple, ouais, et de lancer dimanche, alors que là, il vient de lancer trois manches.
Je pense qu'on vient de lui trouver quand même un rôle assez intéressant. On verra. Peut-être que ça ira à la finale, si finale il y a pour les Capitals. Tire qui rate au coin intérieur pour une troisième balle. Trois balles pas de prise à Philip Irvin.
Chose est sûre, c'est que ça amène une belle profondeur et une...
Ben, c'est parce que tu crées deux releveurs.
Oui,
en,
ben oui,
en coupant
ben oui.
Ton banc en séries éliminatoires, tu crées ni plus ni moins que deux releveurs. Tir suivant qui atteint Philip Irvin.
Oui, Irvin, ça faisait quelques fois là, que les tirs de Morodis étaient à l'intérieur.
Moi, à trois balles pas de prise, je vais te dire quelque chose, Marc-André. Là. Si je suis un lanceur, t'es aussi bien de lancer sur le gars, tant qu'à lancer une quatrième balle, aussi bien faire réfléchir. Mais pas à la hauteur de la tête, là, juste ici, dans les côtes. Là,
on dit
de lancer quand il faut passer un message. Les Jackals, c'est notre série, a dit Morodis. Ou tassez-vous du marbre, faut que je lance des prises.
Ah, c'est comme c'est la chanson qui disait ça.
Oui.
Tassez-vous de là, il faut que je lance des prises. C'est ça que ça disait.
Coureur au premier avec un seul retrait. On est en fin de huitième manche, les Caps en avant par un. Tir au coin intérieur. Encore une fois, on vient d'atteindre James Nelson. Alors, après un retrait, Morodis qui atteint...
un peu de choses, le point gagnant sur les sentiers.
Oui, Morodis vient d'atteindre Irvin et Nelson. Et c'est le dangereux Keon Barnum qui s'amène au bâton maintenant.
Et c'est le pardonnez-moi l'expression, le pattern est le même là, chez Maroldis. C'est au moment où, et sans surprise, Cody Clark va aller rendre visite à son lanceur,
ouais.
Là, d'un pas particulièrement lent. mais Maroldis, là, c'est au moment où il laisse aller la balle, là, le point de...
Le relâchement, le release point.
Ouais. Là. Donc, le point de relâchement de la balle qui est clairement trop tôt parce que la balle demeure à l'intérieur sur le frappeur droitier.
Mm-hmm.
Donc, c'est une visite qui est relativement rapide là, de la part de Cody Clark.
Mais d'après moi, Frank Moscatiello, puis malheureusement, on ne l'a pas sur nos images, mais je suis convaincu qu'il est déjà en train de s'échauffer. Et,
qu'on pourrait lui demander un 5 retrait?
Certainement. Ouais. Keon Barnum, c'est son dernier frappeur là, à Austin Meroldis. S'il ne le retire pas, c'est terminé pour Austin Meroldis. Ça également, j'en suis convaincu.
Ouais, on est en série, tu mènes par un.
Il n'y a pas de place à l'erreur.
Il n'y a absolument pas de patience. Là.
Alors, coureur au premier et au deuxième. Le tir qui rate très loin au coin extérieur pour
et
une première balle.
Et qui aurait atteint un frappeur droitier,
ouais.
Il y a un clairement, Maroldis a une difficulté avec sa mécanique. Là.
Un seul retrait. Longue pause de Maroldis. Le tir.
Encore.
Qui rate encore, puis énormément au coin extérieur. Et là, deux balles, pas de prise. Ça fait beaucoup de balles dans les derniers frappeurs dans le cas de Maroldis,
ouais.
Qui, heureusement, est allé chercher le premier retrait assez facilement avec un roulant au deuxième coussin. Et là, je regarde Barnum. Entre toi et moi, on n'est à pas grand-chose d'une balle à double jeu non plus.
Bien sûr.
C'est un frappeur très dangereux. Le tir. Coin extérieur, ça rate encore. Trois balles, pas de prise. Et là, il y a un piège dans lequel faut pas tomber. De la donner, la gratuite, là, à Keon Barnum. Parce qu'à trois balles, pas de prise, peut-être qu'il va se retenir. Mais trois et une,
mais
par exemple.
Peut-être qu'il a le feu vert aussi.
Peut-être qu'il a le feu vert, effectivement. Le tir. Quatrième balle. Et il n'y a pas un seul des quatre tirs qui est passé près de la zone des prises dans le cas d'Austin Maroldis.
Et là, c'est la même chose, là. C'est vraiment la mécanique de Maroldis. Et là, c'est un frappeur droitier qui s'en vient.
Oh là là.
Donc, là, Castro jette un œil vers l'abri et c'est terminé pour Maroldis.
Ouais, on va amener Frank Moscatiello en relève, j'en suis convaincu. Les joueurs des Capitals qui avaient déjà commencé à se rapprocher au champ intérieur, parce que là, avec un seul retrait, faudra se serrer les coudes à l'avant-champ, du moins pour le prochain frappeur. Oh, comme c'est intéressant.
Ça se complique.
Oui, ça se complique énormément pour les Capitals de Québec. Les buts sont pleins. On est en fin de huitième manche. 2-1 pour Québec sur les Jackals du New Jersey. Maroldis qui quitte très lentement. Et pendant ce temps, ben Frank Moscatiello qui s'amène là avec un pas plus ou moins décidé, en ce sens que je sais pas à quel point
jogging, là.
Je sais pas s'il est prêt nécessairement, mais en même temps, je suis convaincu que Frank Moscatiello, on l'a rencontré plusieurs fois là, c'est un vrai lanceur professionnel et lui il le savait là. Il le savait.
Ouais.
S'il y a une fin de match à aller chercher, je vais y aller, je serai prêt.
Ah, puis...
Et surtout sachant que Maroldis est un peu en montagne russe, là.
Et il l'a démontré tout au long de la saison, là. Je veux dire, il y a rien de gênant chez Frank Moscatiello.
Ah, ben
il a été impeccable toute la saison. C'est sans surprise, releveur de l'année dans la Ligue Frontière au grand complet. Donc, fallait pas... se poser de questions très, très longtemps là, dans le cas de Frank Moscatiello, qui, cette saison, est allé de 40 apparitions, hein, donc en saison régulière. 5 victoires, 2 défaites. Et là, il y a une petite erreur. C'est 5 victoires, 1 défaite, là, soit dit en passant. Là. Il y a une petite erreur sur les statistiques de la Ligue Frontière dans le cas de Frank Moscatiello. Je vous en ressors des plus frais.
Ouais, pas de problème, parce que le gros questionnement qu'on a eu cette saison chez les Capitales de Québec et en fin de saison principalement, c'est pas celui qui va lancer la 9e. Ça, c'est Moscatiello, c'est acquis depuis un certain temps. C'est plutôt celui qui va lancer la 8e manche. Puis regarde, ce soir on a sorti Austin Maroldis. Il y a Franklin Parra qui a été dans les discussions, Evan Rutschke également qui est dans les discussions.
Oui.
Et puis écoute, moi je pense que le prochain qu'on va voir en 8e manche, lorsqu'une situation comme celle-là va se présenter, si ça se présente encore une fois en séries éliminatoires, ce sera Rutschke, là. Je pense que Merodis, c'est terminé avec la
prestation. Je pense que c'est ça.
La prestation qu'il vient d'offrir, c'est tout sauf ce qu'on veut, là.
Je pense que Merodis, en fait, là, s'est retrouvé un peu, puis je veux pas le défendre, mais s'est retrouvé un peu victime de la situation du match séparé en deux, puis qu'on a eu deux partants, là, Saldana et Gallert. Normalement, puis on s'en était jasé la semaine dernière, dans notre échiquier à nous, là, qui n'est pas celui de Pascal Abrini, Merodis, c'était la 7e, ouais. Rutschke, la 8, Moscatiello, la 9. Et Moscatiello, en réalité, là, c'est 7 victoires, une défaite cette saison.
Premier tir de Moscatiello qui touche au sol, bien bloqué par Ruben Castro.
46 apparitions cette saison, 1,86 sa moyenne de points mérités.
Alors Moscatiello qui est prêt, qui est sur la butte. Évidemment, à l'avant-champ, on serre les coudes aux extrémités. White et Profar qui jouent à la limite de la frise du gazon.
Pour ce qui est Profar a reculé un peu.
Ouais, ce qui est au milieu de l'avant-champ, par exemple, on joue en position double jeu. Le tir qui est frappé fausse balle derrière le marbre, c'est Alfredo Marte qui est au bâton. Une et une à Marte. Avec un seul retrait, les buts sont pleins, les caps sont en avant par un. C'est très fragile.
Évidemment, on va demander 5 retraits à Frank Moscatiello dans cette sortie cet après-midi.
La pause de Moscatiello. Le tir. Voilà une deuxième prise au coin extérieur appelée par l'officiel. Cette fois, c'est 1 et 2 à Alfredo Marte. Marte qui est 0 en 3 depuis le début du match. Quatrième frappeur du rôle offensif chez les Jackals du New Jersey. Demande bien sûr son temps d'arrêt maintenant à 1 et 2. Et là, regarde la façon dont est positionné l'officiel. Est-ce que Marte lui a indiqué qu'il s'était fait mal ou quoi que ce soit? Parce que l'officiel rarement va se placer de cette façon-là lorsqu'il y a un temps d'arrêt qui est demandé. Enfin, 1 et 2 à Marte. Les buts sont pleins avec un seul retrait. Le tir. La touche au sol, bien bloquée par Castro.
Oui, tu viens de sauver le point égalisateur là, exactement à cet instant-ci par Ruben Castro. Et c'est triste dans un sens parce que c'est une situation tellement délicate pour l'instant pour les capitales, mais t'as pas accordé un simple coup sûr.
Ah non, c'est Merodis qui a rempli les buts avec...
C'est ça, avec deux frappeurs atteints et un but sur balle. Gallert a accordé un seul but sur balle, n'a pas accordé de coup sûr. Et Merodis n'a pas accordé de coup sûr, mais a rempli les sentiers. Donc, c'est dommage.
2 et 2. Le tir. Ça touche encore une fois au sol. Ça rebondit un peu plus loin, mais là-dessus, Castro a été rapide et Moscatiello a couvert le marbre.
Il est descendu rapidement.
Mais là, c'est compte complet avec un seul retrait. Les buts sont pleins. La tension est assez élevée, merci.
Oh oui, là, c'est très important à quel point ça peut changer de côté rapidement alors que on sentait les capitales en contrôle, pas vraiment inquiétés, même si c'était juste une avance d'un point.
Très en contrôle, on sentait les capitales, effectivement. Et ça ne veut pas dire que ça va changer. Mais pour l'instant, 3 balles, 2 prises, un seul retrait, les buts pleins, en avant par un, en fin de 8e. C'est intéressant. Le tir. Soulève un ballon du côté droit. Est-ce que c'est assez loin?
Ça va être assez loin pour le ballon sacrifice.
Oui, c'est saisi par Gideon dans la droite. Et là-dessus, effectivement, sur le ballon sacrifice, Philip Irvin vient marquer et c'est l'égalité 2-2.
Écoute, Marte a fait son travail.
Il a amené le compte très très loin à 3 et 2 et ensuite a frappé la balle a mis la balle en jeu assez loin pour venir marquer. Et là au moins il y a 2 retraits, on va pouvoir respirer un peu en défensive chez les Capitales de Québec.
Coureur aux extrémités maintenant.
Et c'est Tiquan Forbes qui s'amène au bâton avec 2 retraits. Le tir. Tout juste à l'intérieur pour une première balle. Forbes dans le match jusqu'à maintenant, 0 en 3. 2 ballons, un dans la gauche, un dans le centre, et il a été retiré sur des prises en 4e également. Le tir. La balle est frappée mollement en direction de l'arrêt court. Valentin Saisy remet au 2e à Glaude pour compléter la manche. Les Capitales qui, dans les circonstances, je vais te le dire, à mon avis, s'en sortent admirablement bien.
Plutôt bien, oui. Évidemment qu'on aurait souhaité ne pas accorder ce point qui crée l'égalité après 8 manches. Mais...
ça va nous donner une 9e très, très, très intéressante.
Ah, ben oui. Mais là, les bâtons chez les Capitales doivent se réveiller. Pas le choix.
C'est 2-2. On s'en va en 9e manche en direct du Scotland Park de Sussex. Vous écoutez le baseball de la Ligue Frontière sur Chiz, Chiz.ca et sur Flow Sports.
Allô, chérie. Je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie. Je m'en viens. À tantôt.
pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Bonsoir, chérie!
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non, non, non. Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort du four, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben...
C'est le début de la 9e manche. Les Capitals et les Jackals sont nés à nez. C'est 2-2 en début de 9e manche. Et pour les Jackals, ben c'est leur Frank Moscatiello à eux qui est au monticule maintenant, mon cher Marc-André, un certain Vogel.
Oui, Matt Vogel, le numéro 1, le droitier qui s'amène. 2 victoires, 1 défaite cette saison. Il a 5 victoires protégées également. En 37 manches de travail, il a 51 retraits sur des prises et un whip sous la barre des 1. Donc 0,97, on peut dire à peu près un coureur sur les sentiers par manche lancée.
Alors pour les Capitals, ça mène au bâton Claude Profar et White dans l'ordre. Le premier tir à Claude, qu'il regarde passer d'ailleurs pour une première balle. Claude dans le match est venu frapper déjà 3 fois. 2 buts sur balle dans son cas et 1 retrait au bâton. Le but sur balle, on le prendrait encore une fois. Voilà une prise appelée par l'officiel, c'est 1-1. À David Claude. Profar au cercle d'attente. Et on doit fabriquer un point là chez les Capitals. Absolument, on ne veut pas aller plus loin dans le match. Sur élan, voilà une deuxième prise. C'est 1-2. Claude qui a été un rouage important depuis un certain temps avec les Capitals quand même. Là, depuis au moins l'an dernier où son apport est crucial. Il a été avec Équipe Québec également. C'est un très bon joueur de balle. Et là, il frappe la balle en lieu sûr du côté droit. Contourne le premier, s'envole vers le deuxième et revient vers le premier finalement.
Balle-là est revenue.
Le relais s'est amené justement effectivement en direction du deuxième. Et David Claude aurait été retiré certainement s'il avait prolongé sa course. Alors sagement s'arrête au premier avec un simple. Et ça, là, c'est exactement ce dont avaient besoin les Capitals de Québec pour débuter la 9e.
Oui, absolument. Faut dire également, là, soit dit en passant, pour ceux qui sont aux faits et gestes des règlements de la Ligue frontière en saison régulière, si on doit jouer plus d'une manche, il y a un coureur fantôme au deuxième en 10e manche. Ce n'est pas le cas en séries éliminatoires.
Oui, effectivement. Et ça, c'est important de le mentionner. Ça peut sembler aller de soi, là, mais...
Si jamais fallait s'y rendre, bien sûr.
Alors, Jeremy Profar regarde passer le premier tir qui lui est envoyé pour une balle. Avec Claude au premier, il n'y a pas de retrait. Tir suivant, encore une fois, au coin extérieur. Ça rate la cible. 2 balles, aucune prise à Profar.
On a besoin du Profar. On l'a eu hier, le frappeur professionnel qui a frappé le coup sûr important, le coup sûr opportun qui a produit un point. On a besoin du même genre de Profar maintenant. Ça veut pas nécessairement dire de frapper un coup sûr. Ça veut juste dire, rends-toi sur les sentiers, copain, à tout prix.
Ouais. Et ce qui est fantastique avec Profar, c'est qu'on n'a pas besoin de son point à lui. On a besoin qu'il fasse avancer Claude.
Oui, c'est ça. Donc,
fausse balle derrière le marbre, c'est 2-1 maintenant.
T'as raison, je me ravise. C'est même pas rends-toi sur les sentiers à tout prix, c'est fais avancer Claude à tout prix.
Mais s'il pouvait se rendre, on le prendrait.
On le prend.
Pas d'accumulation de retrait, c'est une bonne nouvelle en 9e manche quand c'est l'égalité 2-2.
Maintenant, début de 9e, égalité 2-2, si Profar se rend sur les sentiers, est-ce qu'on le remplace?
Je pense que non. Voilà Claude qui est en course et qui est sauf au deuxième. Non, parce que Profar... aussi
on en a besoin aux trois.
Ben,
hein,
c'est ça l'affaire. Hein? Aussi spécial que ça puisse paraître, Profar, sa principale utilité actuellement là, au sein de l'alignement des Capitals de Québec, c'est pas au bâton, c'est d'être le joueur de troisième but parce que TJ White n'est pas en mesure de jouer là. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est fantastique. Et là, Claude qui est installé au deuxième, c'est ça aussi, c'est fantastique.
Le boulot est fait, but volé pour Claude. Le point, on va dire, qui donne l'avance, est en position de marquer, aucun retrait, compte de 3-1. C'est une bonne situation pour les Capitals.
Absolument. Dans le cas de Profar, il y a un seul objectif. Claude doit être au troisième coussin après sa présence.
Pourquoi pas, moins
qu'il récolte le but sur balle, bien sûr. Ça, on s'obstinera pas. Mais sinon, Profar doit absolument faire progresser Claude en direction du troisième coussin. Le tir. Frappe une fausse balle derrière le marbre. C'est 3-2 maintenant.
quelque chose qu'on voit régulièrement à toutes les présences au bâton maintenant de Profar depuis quelques temps. Des fausses balles alors qu'il est en retard sur le tir du côté droit, fausses balles du côté droit. Il en fait énormément. Il fait contact, bien sûr. Il se défend. Mais quand même, on souhaiterait peut-être le voir mettre plus de balles en jeu.
Temps d'arrêt qui a été appelé par l'officiel du premier coussin, qui, là, vous le voyez sur l'image.
Et là, je comprends ce que tu veux dire sur l'officiel qui se met dans la boîte du frappeur opposé.
Oui.
Et il regarde face à face. D'après moi, c'est un message de l'officiel qui dit, gars, prends ton temps d'arrêt, mais...
Et quatrième balle, Profar qui va chercher le but sur balle, un tir qui a touché au sol. Puis honnêtement, les Jackals s'en sortent plutôt bien dans les circonstances parce que Glaude doit rester au deuxième grâce à l'excellent bloc de Rusber Estrada, le receveur, parce que ce tir-là était tout sauf proche de la zone des prises, ça touchait au sol.
Puis en fait, moi, à mon esprit, bon, peut-être qu'on voulait pas que le tir touche au sol, mais il y avait aucune espèce d'intention, à mon esprit, que Vogel lance dans la zone des prises. Parce que dans le pire des cas, tu te remets en situation de balle à double jeu si tu t'appelles les Jackals. Je pense que c'est la moins pire des situations pour eux.
Là, on va y aller avec un temps d'arrêt chez les Jackals. Puis effectivement, je pense que ce que tu dis, c'est pas complètement fou. Du moins, on a essayé que Profar se compromette avec un tir qui était pas tout à fait frappable en lieu sûr avec aplomb. Parce que le point qui est important actuellement, là, il est au deuxième but. C'est David Glaude qui compte. Profar ne compte absolument pas. Et Profar n'est pas un bon coureur de toute façon.
Non,
donc, les Jackals ont peut-être pas tout à fait peur de lui. Là, c'est
pas du tout, même.
Pas du tout comme coureur, évidemment, là.
Puis on s'est échangé quelques mots, là, entre Pat Scalabrini et TJ White. On a mis au point la stratégie. Quelle sera-t-elle?
Et là, il dépose l'amorti White, mais c'est un haut ballon. Ça tombe hors ligne, heureusement. Tout juste raté par le joueur de premier coussin là-dessus. TJ White a encore une chance. Et je suis pas certain qu'on va lui redemander l'amorti après avoir frapper un ballon pratiquement dans les mains du joueur de premier but. On est chanceux chez les Capitales.
On a communiqué une nouvelle séquence de signaux là au troisième but, Pascal Abrini. J'aimais l'idée de déposer l'amorti, surtout que White, là, son bâton, est pas tout à fait au rendez-vous là, depuis quelques temps.
0 et 1 à TJ White. Se tourne pour déposer l'amorti. Voilà qui est fait cette fois admirablement. Et
c'est parfait.
Oh, oui, c'est parfaitement
parfait.
Exécuté. White qui a retiré 1-3, mais là-dessus... Tout le monde progresse de 90 pieds, y compris Profar au deuxième, qui est pas un marchand de vitesse, vous l'avez compris. Et là, le point de la victoire, il est au troisième but. Et c'est Jonathan Lacroix, l'un des hommes des grandes occasions, qui s'amène au bâton chez les Capitales. L'un de ceux, parce qu'il y en a plusieurs, là, je pense que Castro peut certainement être dans cette catégorie-là. Mais Lacroix est un joueur qui répond présent lorsque c'est nécessaire.
Absolument.
Là, je dirais que c'est nécessaire. On serre les coudes à l'avant-champ chez les Jackals du New Jersey. Un seul point d'écart. Le tir. Lacroix a failli être atteint là-dessus.
Et que les Jackals jouent rapprochés à l'avant-champ, on l'a vu dimanche dernier au Stade Canac avec Yasmuel Valentin. Si Lacroix frappe cette balle-là en lieu sûr et qu'il perce l'avant-champ.
C'est deux points.
C'est deux points. Profar va venir marquer aussi.
La balle est frappée du côté droit, mais hors ligne toutefois. C'est une et une maintenant.
Quelle situation intéressante. Quelle fin de match encore une fois. C'est le baseball des séries et ça paraît. Les Jackals veulent pas arriver à Québec en tirant de l'arrière 0-1. Et les Capitales veulent entrer à Québec. Le torse bombé et 4300 personnes derrière eux pour passer le coup de balai.
Une et une. À Lacroix, le tir, qui regarde passer une deuxième balle, c'est deux et une maintenant. Tu parlais de Profar qui va venir marquer si la balle est frappée en lieu sûr. Je pense que oui, et la raison, elle est plutôt simple, c'est que les joueurs d'avant-champ au milieu du terrain sont à la limite de la frise. Et ce que ça veut dire, c'est que Profar peut prendre exactement le même écart que le joueur d'arrêt-court sans même avoir
peur danger
d'être retiré. Et ça, c'est un long écart. Fausse balle du côté droit, 2 et 2 maintenant.
Et je t'ajouterais également que les joueurs au champ extérieur jouent à leur position, somme toute régulière, là, je te dirais. Donc, un roulant, là, un simple qui perce l'avant-champ, là, sur du gazon naturel, ça roule moins vite, ça va être plus long pour les voltigeurs d'amener de ramener la balle, ça donne du temps de plus à Profar. Faut prendre toutes ces fractions de secondes-là ici et là, surtout pour un gars comme Profar qui est pas un coureur rapide.
Un seul retrait, coureur au deuxième et au troisième, 2-2 à Jonathan Lacroix, début de neuvième manche, le tir. Troisième balle, pardon, j'ai souffert d'enthousiasme. 3-2, complet maintenant à Lacroix, effectivement. C'est 2-2 entre les Capitales et les Jackals. Le match est sur la ligne là.
Que oui.
On joue très avancé en défensive chez les Jackals, on veut couper le point. Le tir. Et c'est une quatrième balle pour Jonathan Lacroix qui se dirige facilement au premier. Et il y a toujours un seul retrait pour l'un des héros du match jusqu'à maintenant, Tommy Seidel, qui s'amène au bâton. Lui qui a frappé la longue balle hier soir en troisième manche pour donner les devants aux siens 1-0. Et là, ben, visite au monticule chez les Jackals. On va se poser quelques questions.
Il y a plein de récits qui sont récurrents chez les Capitales de Québec. Les fins de match enlevantes ici au Stade Canac. Mais il y a aussi cassé le meilleur releveur de l'adversaire.
Mais effectivement.
Ils l'ont fait tellement souvent. En finale l'an passé contre Schaumburg, ils sont en train de le faire sur Vogel actuellement.
En fin de semaine contre Ottawa. En fin de semaine contre Ottawa, c'est arrivé également. Alors, tout ça mis ensemble, évidemment que ça nous met dans une situation fort intéressante. Là, chez les Jackals, la question qu'on doit se poser, elle est très, très simple. Est-ce qu'on serre les coudes tout le monde à l'avant-champ? Mais je pense pas que c'est ce qui va arriver. Je pense qu'on va se placer en position double jeu au milieu de l'avant-champ. Et ça, sans dire que c'est à l'avantage des Capitales. Non, c'est pas à l'avantage des Capitales, mais c'est simplement que il faut le savoir. C'est plus que c'est ça que je veux dire, c'est que faut absolument être au courant de qui est placé où.
Oui. Là, dans le cas de Seidel, Seidel ont une certaine vitesse, donc
premier tir à Seidel qui rate au coin extérieur pour une première balle. Un but sur balle, c'est l'avance pour les Capitales de Québec. Les buts sont pleins, il y a un seul retrait. On joue serré au milieu du terrain pour le double jeu. Les extrémités jouent à la frise. Cible au coin extérieur, le tir. La balle est frappée en flèche directement dans les mains.
Et on a doublé.
Et on a doublé. On a donc flèche directement dans les mains du joueur de deuxième coussin qui a relayé, qui a doublé Profar au deuxième coussin. Profar n'avait pas pris un écart déraisonnable, je pense, sur la
séquence.
Non. C'est simplement que la balle est allée au mauvais endroit, au mauvais moment. Et double jeu. Ah, ça, c'est dommage. Ça coupe la possibilité pour les Capitales de Québec de l'emporter. Si ça devait être
le
dénouement,
si
ce sera en manche supplémentaire.
Écoute, c'était un bon contact pour Seidel. C'est passé tout près, évidemment. On peut pas le blâmer, là. Ah!
Comme c'est dommage. 2-2 entre les Capitales de Québec et les Jackals du New Jersey. On s'en va en fin de 9e manche. Frank Moscatiello est de retour sur la butte. Je vous surprends pas en disant ça. La suite dans un instant.
Allô, chérie. Je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie. Je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en viens.
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Vous recherchez une émission qui donne la parole au peuple, travaille pour les intérêts du peuple et aborde les problèmes quotidiens de la vie? Ne cherchez plus. La Tribune pour le Peuple, l'espace des libertés pour s'exprimer. Votre émission incontournable animée par Jean-Luc Oumba le Bantou. Chaque mercredi à partir de 14h sur Cheese 94.3.
On est de retour au Stade Canac. Ben nous, on est au Stade Canac, on va vous le dire. On est sur la galerie de presse du Stade Canac, là où sera disputé le match numéro 2 de cette série entre les Capitals et les Jackals de New Jersey. Ça, c'est demain soir, 19h05. Mais là, on va finir celui-là. Le premier match de la série, on l'a commencé hier soir. Douche, une vraie de vraie, énormément de pluie. Ça nous amène à compléter le match ce midi. Et là, ben c'est 2-2. On est en fin de 9e manche. Les Capitales qui ont raté une très bonne chance, malheureusement, de s'inscrire, de prendre les devants plutôt il y a quelques instants.
Les buts étaient remplis avec un seul retrait. Malheureusement, on a frappé dans un double jeu, mais un double jeu. Bon, Seidel frappe une flèche qui est captée. On a doublé Profar au deuxième. C'est un jeu où le crédit revient à la défensive. Là. Les Capitales n'ont pas erré dans ce jeu-là.
Frank Moscatiello est de retour sur la butte. C'est Josh Reward qui s'amène au bâton. Pour débuter, c'est le frappeur numéro 6 du rôle offensif chez les Jackals. Le tir à Reward qui est trop loin pour une deuxième balle. Deux balles, aucune prise maintenant.
Et là, Frankie doit être expéditif. On doit envoyer le message parce que là, on a des Jackals gonflés à bloc d'avoir tourné ce double jeu-là qui s'amène au bâton, fin de 9e. Et s'il marque un point, mais c'est terminé et il l'emporte. Donc, tout est possible.
La balle est frappée en hauteur, un haut ballon au centre du terrain. C'est Lacroix, non, finalement c'est Glaude qui saisit cette balle Et il y avait 3 ou 4 joueurs qui bifurquaient tous au même endroit. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de blessés là-dessus.
Oui, Valentin, Lacroix et Claude.
Et on a réussi à faire le retrait quand même là-dessus.
Oui, absolument. Il n'en reste que 2. Après ça, ben ouais. Là, il faudra se poser la question. Fort probablement que ce sera la dernière manche de travail de Moscatiello. Là, je serais très surpris du contraire.
Je suis convaincu que c'est sa dernière, oui.
Donc là, c'est quoi tes options? Bon, Evan Rutschke vient probablement au sommet de la liste.
Oui.
Sinon, t'as encore Franklin Parra.
Et là, au bâton, c'est Rosberg Estrada qui est le receveur des Jackals qui vient frapper. Le premier tir à Estrada est une balle.
Et là, je vous entends, là, j'ai prononcé le nom de Franklin Parra. Je sais là, qu'il y a des gens qui seraient pas partisans de le mettre sur le monticule. Je vous énumère uniquement les options, non pas les opinions.
Tir qui rate encore une fois pour une deuxième balle, 2 balles, aucune prise. Dans le cas de Rosberg Estrada, il a été retiré 2 fois sur des prises jusqu'à maintenant, en 2e et en 7e manche, 1 fois hier, 1 fois aujourd'hui.
Sinon, t'as Kenny Pearson, Elliot Carney, Tanner Jason Dalton.
Le tir. Voilà une 3e balle.
Après moi, ça va jouer entre Rutschke et Pearson. Là.
Tout dépendant de qui s'en vient. Ah, ben c'est 2 gauchers.
C'est 2 gauchers
donc,
dans ce
je pense que c'est Rutschke à ce moment-là qui va obtenir la mission. Ça, ce serait mon choix du
moins. Je crois, effectivement. Si tu as besoin d'un droitier, absolument, je pense qu'Elliot Carney devient une option.
Oui, parce que Mott n'est pas disponible. Il lance blessé depuis un certain temps. 4e balle à Rosberg Estrada. Donc, but sur balle après un retrait.
Point gagnant sur les sentiers.
Et là, faut pas se mettre dans le trouble davantage avec Alex Torral qui s'amène au bâton. Lui, il est en quête d'un sombrero aujourd'hui, hier, dans le match qu'on joue là.
Dans le match numéro 1.
Dans le match numéro 1, voilà.
Voilà.
Le joueur de premier but des Jackals du New Jersey. Tout le monde est prêt. Le tir. Ça touche. Est-ce que ça touche le sol ou c'est trop bas? Là, c'est difficile
trop bas
à dire, mais c'était pas un tir de grande qualité. Alors là, je pense que Castro veut pas laisser les choses dégringoler là pour Frank Moscatiello. Donc, prend un temps d'arrêt puis va lui demander. C'est quand même 5 balles en ligne, effectivement. Là, tu me fais le signe. Puis c'est important d'être capable de lire ces petits trucs-là.
Oui, effectivement, parce que c'est pas... Puis on le sait, là, c'est pas le style de Frank Moscatiello d'enchaîner les balles, là, donc on veut juste replacer les choses.
Il est capable de lancer 5 prises en ligne aussi à partir de maintenant.
Définitivement.
Là.
Il l'a fait plus souvent que lancer 5 balles.
Oui, c'est vrai. Le tir. Au coin extérieur pour une 2e balle. 2 balles pas de prise maintenant avec un seul retrait. Coureur au premier. Au bâton, c'est Alex Torral, frappeur numéro 8 du rôle offensif chez les Jackals. Là, on tente de prendre.
Bon geste!
On a tenté de prendre Estrada en surprise, là, par surprise au premier coussin, mais un bon geste, mais malheureusement, on ne l'a pas retiré. Le balayage qui est survenu à peu près au même moment où il touchait le but.
Et le relais de Moscatiello était de qualité également.
Le tir. Voilà une prise au coin extérieur, ça touche enfin la cible.
Voilà.
2 et 1 pour Moscatiello maintenant. Cercle d'attente, Kevin Rowland, 9e et dernier frappeur du rôle offensif chez les Jackals. Le tir. 3e balle, ça rate tout juste. Et on est à un tir de placer le point de la victoire en position de marquer au 2e coussin. Je rappelle que Rosberg Estrada est là, bien positionné, bien patient à 3 et 1. Torral est prêt. Le tir. Et voilà une 2e prise sur décision. Compte complet maintenant à Alex Torral.
Oui, Torral aurait souhaité une 4e balle là-dessus. Bon, peut-être que ça faisait partie de cette grande pièce de théâtre.
Qui commence à s'éterniser un peu quand même. Elle a commencé aux alentours de 19h05 hier soir.
Ciel, mon mari.
Et oui, puis le ciel s'en est chargé. On a commencé 1h20 plus tard même. 3 et 2. Coureur au premier à un retrait. Le tir. Un haut ballon qui est soulevé. C'est White qui le demande et qui saisit pour le 2e retrait.
Quel retrait important. Une présence au bâton qui a commencé compliquée pour Moscatiello.
Oh, oui,
avec
oui.
Des balles. On sent qu'il n'a peut-être pas tout à fait l'étoffe habituelle. Peut-être qu'il lui manque le support de la foule, on sait pas. Mais il s'en sort. C'est d'abord et avant tout ça le plus important. Et là, il y a 2 retraits.
Pour affronter Kevin Rowland, le 9e et dernier frappeur du rôle offensif chez les Jackals. Ensuite, Philip Irvin est au cercle d'attente. Premier tir qui est appelé prise par l'officiel à Rowland. Il n'y a pas de client facile de toute façon au sein de l'alignement des Jackals du New Jersey. Là, tout le monde est tout à fait dangereux. Une moyenne autour de 300 et plus. Là. Tir au coin extérieur qui rate tout juste. C'est une et une. En fait, sur les 9 partants des Jackals, il y en a un seul qui n'est pas à 300, puis il est à 298 ou à peu près.
Là. Bon. Ça en dit long quand même.
On a fait l'exercice hier soir et on était plutôt impressionnés, faut le dire. Une et une. Le tir. Fausse balle derrière le marbre. On est à un tir de s'en tirer là chez les Capitals.
Malgré tout ça, les Jackals n'ont que 2 points dans le match d'aujourd'hui et 3 coups sûrs seulement.
Ben, le dernier qui a été fabriqué, c'est Philip Irvin, le prochain frappeur, celui qui est au cercle d'attente. Il a été atteint. Le suivant a été atteint, ensuite un but sur balle et ensuite un ballon sacrifice.
Ben voilà, il n'y a aucun coup sûr là-dedans. Là.
Le tir. Au ballon encore une fois du côté droit, ça s'en va hors ligne. Est-ce qu'il y a de la place? Et on saisit pour le 3e retrait. Les Capitals s'en tirent. Ben vous savez quoi les amis? On va aller en manche supplémentaire.
Pourquoi pas? Tiens, c'était pas assez long ce match-là.
Ben
plus
oui.
De près de 24 heures.
C'est 2-2 après 9 manches complètes de jeu. Les manches supplémentaires suivront dans un court instant, mais nous on s'arrête le temps d'une pause en vous disant merci d'être des nôtres pour le baseball de la Ligue Frontière sur Chiz 94.3, sur Chiz.ca et également sur Flow Sports.
Bonsoir chérie!
Bonsoir!
J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non, non, non! Ah chérie, j'arrive! Ce qu'on sort pour vous, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben!
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et joint. Tiens, joint, prends les clés.
Es-tu fou? Je suis bien que trop stone. Hey, bière!
Ah non, une fois que je prenne pas, faut que je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis 2-3 puffs.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Ouais, ben on s'en va en 10e manche. Les manches supplémentaires commenceront dans un court instant. Marc-André, on est en manche supplémentaire. Pendant la saison, on a l'habitude de voir un coureur installé au 2e coussin. Qu'en est-il des séries éliminatoires?
Laisse-moi simplement traduire dans ma tête en même temps pour pouvoir vous le lire en français et non pas en anglais.
Ouais, non, pas de problème. On va quand même vous remettre le tout en perspective. Donc, le match d'aujourd'hui a recommencé tout à l'heure. On est en 5e manche. Les Caps étaient en avant 2-1. Mais depuis, on a accordé un point sur la manche un peu plus difficile. La 8e, celle où Austin Morozis était d'office avant que Frank Muscatello doive venir prendre la relève. Et là, ben c'est 2-2 entre les Capitals et les Jackals du New Jersey. Début de 10e manche. Là, on est sur le point de recommencer. Pour ce qui est des Capitals de Québec, au bâton, ça mèneront Castro, Valentin et Bird.
Donc, en gros, là, tout simplement, Pierre, la règle de ce qu'on appelle le International Tiebreaker ou le Sudden Death, donc la mort subite ou le bris d'égalité avec un coureur fantôme, ne sont tout simplement pas effectifs en séries éliminatoires, quelconque match qu'il puisse s'agir. Là. Donc,
exact.
On joue au baseball.
Ruben Castro s'amène au bâton, regarde passer le premier tir pour une prise, puis vous avez vu effectivement le coureur qui probablement est programmé électroniquement là, sur les images de Flow Sports en manche supplémentaire. Bon, on l'a fait disparaître, là. Vous voyez que tous les buts sont inoccupés maintenant. Deuxième tir qui rate au coin extérieur, c'est une et une à Castro. Et là, Castro, ben à l'évidence, il est au courant, là, mais ce qu'il doit faire, c'est absolument se rendre sur les sentiers, peu importe le moyen. Voilà une deuxième balle, Castro qui regarde passer. Alors Castro, Valentin et Bird sont les 3 premiers frappeurs en 10e manche. Le tir. Fausse balle du côté gauche. 2-2 maintenant à Ruben Castro. Évidemment, si Castro peut se rendre sur les sentiers, on risque de demander l'amorti à Valentin. On verra, là, tout dépendant de la situation. 2 et 2. Le tir. Troisième balle. Castro est à un tir de soutirer le but sur balle, à un tir également d'être retiré sur des prises.
C'est incroyable quand on y pense. Hein? C'est 2 à 2. Match de série entre les rivaux de toujours, les Jackals et les Capitals, qui ont terminé avec la même fiche.
Quatrième balle pour Ruben Castro. Effectivement, la même fiche exactement au pile-poil près. Là.
60 victoires, 35 défaites dans les deux cas.
Et là, ce but sur balle à Ruben Castro amène effectivement quelques questions. Que fera-t-on avec Yasmuel Valentin, avec Greg Bird qui est au cercle d'attente? Valentin va-t-il déposer l'amorti? C'est une décision que Pat Scalabrini lui a probablement déjà communiquée dans l'abri avant même de se rendre sur le terrain. Alors, il est au courant maintenant de voir ce qui surviendra. Là, on tente de retirer Castro premier, mais sans succès.
Écoute, au troisième coussin, on se rapproche. Dans mon esprit, il n'y a rien de surprenant. Là. Valentin va déposer, on amène Castro au deuxième et on mise sur la qualité du coup de bâton de Greg Bird. Et
les Jackals qui viennent de tenter une balle cachée rapidement, là, mais je vous reviens là-dessus. Alors, Valentin est prêt, se tourne pour l'amorti, dépose sur la ligne du premier coussin, bonne course, ça prendra un jeu parfait et... On l'a retiré sur...
Tout juste, hein, il a tout donné.
On l'a retiré en appliquant la balle sur lui et il était en train de mettre le pied, oui, sur le premier coussin. Alors, oui, on l'a retiré, mais là-dessus, Castro sera en deuxième et le travail est accompli, mais oh, que ça aurait été fantastique d'avoir Bird avec aucun retrait au bâton.
Effectivement, ça aurait été la situation idéale, mais la situation logique, c'est celle-là également. On mise encore sur le coup de bâton de Greg Bird avec un coureur rapide au deuxième coussin en Ruben Castro. Une balle en lieu sûr. Évidemment, là, un circuit, c'est l'idéal, puis tout le monde capote.
Oui.
Mais
on donne le but sur balle à Greg Bird. Là.
Ah, ouais,
le but sur balle intentionnel à Bird.
Ça pour affronter Gideon?
Ben, écoute, pour donner des jeux forcés un peu partout, c'est leur choix.
Oui, bien sûr, les